Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à tous dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour vous servir. Merci de nous suivre partout. Vous êtes à RDC, même en dehors de nos frontières, sur www.radiookapi.net. Quel est le rôle d'un observatoire de recherche sur l'entrepreneuriat féminin? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Madame Goretti Kat. Elle est chargée des communications, chercheuse et membre du comité observatoire pour elle. Madame Goretti Kat, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez déjà le 086 341 28 71. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons aborder un thème qui va certainement vous intéresser. On va parler du lancement d'un front académique des solidarités avec les enseignants et étudiants de l'université de Goma. Aujourd'hui, l'université officielle de Mbujimayi accepte de financer les études de près de 3000 étudiants déplacés des gares qui ont quitté Goma à cause de la rébellion. On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec M. l'abbé Apollinaire Tshibaka, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Merci à toute l'équipe de production, Patrick Yassongwa, Esther Mamboté, John Tiboaboa, David Moussangou, au micro Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal Plus, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien. En République démocratique du Congo, les femmes entrepreneurs jouent un rôle moteur essentiel dans le développement économique, social et communautaire. Cependant, elles se heurtent à des multiples freins structurels, socioculturels et économiques. Par exemple, l'accès limité au financement, charges mentales et domestiques, faible accès aux réseaux stratégiques, stéréotypes de genre, manque de visibilité, isolement, etc. Par ailleurs, très peu d'entreprises des femmes sont formalisées et elles restent souvent de très petites tailles malgré les opportunités économiques existantes. Tout ceci avait motivé le lancement en 2024 du projet pour elles, dont le but et de soutenir 1200 entreprises féminines de Kinshasa, de Kikwit et de Bukavu. Et dans le cadre de ce projet, financé par Expertise France, à hauteur de 12 millions d'euros, un observatoire de recherche sur l'entrepreneuriat féminin à RDC a été mis en place. Alors, quel est le rôle de cet observatoire? Quelle est sa valeur ajoutée pour les femmes entrepreneurs et pour l'écosystème entrepreneurial en général? On en discute aujourd'hui avec Madame Goretti Kat, qui est chargée des communications de ce projet, chercheuse et membre du comité observatoire pour elle. Madame Goretti, encore une fois, ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, la première question à savoir, c'est quoi un observatoire des recherches sur l'entrepreneuriat?
En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi aussi d'être là et d'être avec les auditeurs. Alors, dans ce cas, l'observatoire pour elle, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mm-hmm. C'est vraiment une structure, une rencontre, une plateforme qui réunit des professionnels, certes, mais aussi des chercheurs, des professeurs, des chefs de travaux spécialisés sur la question de l'entrepreneuriat pour vraiment récolter des données éprouvées. La réalité, c'est que l'écosystème a certes des données, mais certaines données ne sont pas récoltées de manière scientifique. et donc même leur viabilité, la possibilité de les exploiter devient douteuse. Donc cet observatoire a vraiment ce rôle-là d'identifier, de récolter sur terrain les données sur l'entrepreneuriat féminin, les traiter et même les disponibiliser à l'écosystème de manière scientifique, des données vérifiées.
Alors il s'agit de quelles données exactement ?
Eh bien, il y a vraiment une diversité de données indispensable pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat féminin à l'heure d'aujourd'hui, notamment déjà où est-ce qu'on trouve ces femmes entrepreneurs, combien sont-elles. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de nombreuses données sur quelles sont les difficultés, les défis que ces femmes entrepreneurs rencontrent, mais quels sont les facteurs qui font en sorte que très peu ont accès au financement, quels sont les leviers qui pourraient être mis en place de manière plus efficace pour les soutenir. À titre d'exemple, il y a de nombreux programmes de soutien de femmes entrepreneurs qui ont été mis en place. Mais l'observation, c'est que bien qu'il y ait un grand nombre de femmes qui veulent participer, très peu postulent, par exemple. Certains incubateurs ont réussi à convaincre une majorité de femmes de participer. Qu'ont-ils fait exactement ? En bref, sur le plan des financements, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan même de se lancer en entrepreneuriat, les aides qui existent, toutes ces données-là peuvent être maintenant trouvées après avoir été bien traitées grâce à l'Observatoire de recherche sur le sujet.
Ah d'accord. Et comment, quelles sont les techniques que vous utilisez pour collecter ces données exactement ?
Alors pour ça, vraiment, je vais demander aux auditeurs de se rapprocher vraiment de l'observatoire parce qu'effectivement, il y a plusieurs méthodes qui sont mises en place. Il y a une méthode effectivement scientifique qui est mise en place. Et d'ailleurs, nous sommes en train, pas seulement nous, de mener des recherches, mais de collaborer avec tous ceux qui ont déjà entrepris de telles recherches, tant sur ici en RDC qu'ailleurs, des recherches scientifiques sur l'entrepreneuriat féminin en RDC. Et pas que seulement les chercheurs, les incubateurs, les institutions qui ont récolté des données qui ont des chiffres, l'observatoire pour elle vient être ce pont qui centralise ces données, qui les traite et qui pourrait les mettre à disposition de tous les autres acteurs de l'écosystème qui servent le bien-être entrepreneurial des femmes entrepreneurs.
Et quelle est la valeur ajoutée de cet observatoire pour elle ?
La science. C'est possible aujourd'hui d'aller sur Internet et de trouver des données. C'est possible avec ChatGPT de trouver quelques données. Oui. Mais aujourd'hui, on peut trouver des données vérifiées grâce à l'observatoire pour elle. Deuxièmement, l'observatoire a cet avantage d'avoir réuni différents acteurs de l'écosystème. Grâce à la table ronde d'ailleurs organisée en avril dernier, les politiques sont réunies, les femmes entrepreneurs elles-mêmes sont présentes, donc il n'y a pas de décision prise sans elles. Les acteurs d'accompagnement, les scientifiques, les institutions bancaires. L'observatoire a ce deuxième avantage de réunir tous les acteurs de l'écosystème afin ensemble de relever les données, de trouver les solutions. Il n'est pas dans son coin. Il travaille avec les parties prenantes.
Les parties prenantes. Alors, on peut dire déjà que cet observatoire s'occupe beaucoup plus des femmes qui sont encadrées, soutenues par le projet pour elles, ou tout simplement les femmes entrepreneurs. Vous occupez des femmes entrepreneurs en général. Vous collectez les données concernant les femmes entrepreneurs en général.
Bien entendu, l'Observatoire collecte des données des femmes entrepreneurs en général. Maintenant, il est plus facile pour nous d'accéder aux données des femmes entrepreneurs accompagnées dans le cadre du projet pour elles. C'est quand même un nombre important. Mais durant nos différentes activités, notamment le cercle d'échange qui a été organisé au mois de juin, 50% des femmes qui ont participé n'ont même jamais été accompagnées par aucun incubateur en RDC. C'est vraiment pour démontrer la volonté du projet d'être le plus inclusif possible et de bien comprendre les besoins des femmes entrepreneurs en RDC, qu'elles aient été accompagnées par le projet pour elles, par d'autres incubateurs ou pas.
Bien, nous parlons de l'Observatoire, du rôle de l'Observatoire des recherches sur l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Appelez au 086 341 2871. Appelez-nous à ce numéro si vous voulez participer à cette émission de la vie au quotidien. Alors dites-nous, déjà, on peut avoir une idée sur les données déjà collectées, par exemple sur les femmes qui sont financées par le projet pour elles.
Oui.
Au total, il y a 1200, je pense, hein, 1200 entreprises féminines.
Le projet est encore en cours.
En cours, oui.
Donc l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ça. Nous allons nous spécifier sur un seul aspect qui est réel et qui est même un élément de sensibilisation sur lequel l'Observatoire travaille, c'est les stéréotypés liés à l'entrepreneuriat féminin.
Oui.
De nombreuses femmes entrepreneurs aujourd'hui, depuis que le projet Observatoire a commencé, il est arrivé que 4 femmes sur 10 femmes interviewées parlent par exemple d'harcèlement dans le processus d'exécution de l'entrepreneuriat. Et attention, cet harcèlement n'est pas seulement sexuel, c'est parfois aussi vraiment une pression sociale. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'entrepreneuriat? Et si vous êtes entrepreneur en tant que femme, on ne vous soutient plus, on ne vous accompagne plus. Il y a vraiment ce mythe de la femme africaine ultra forte qui peut tout gérer, et quand elle se lance en entrepreneuriat, on ajoute les charges sur elle, si bien qu'on étouffe sa progression et son entreprise meurt. Et même sur le plan mental, ça devient très compliqué. Il y a aussi la question de vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire ceci. Ça a l'air d'être un détail. On pourrait se dire que nous sommes en 2026, on ne devrait plus parler de ces choses, mais c'est une réalité. En dehors d'être chargée de communication du projet,
oui,
effectivement, je travaille pour Ovation qui exécute le projet aussi en tant que coach qui accompagne les entrepreneurs. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois où on doit appeler les parents ou les époux des femmes entrepreneurs pour obtenir l'autorisation des femmes à participer à des programmes d'accompagnement. Pour qu'on explique que le fait qu'elles participent, ça ne va pas chambouler le foyer, ça ne va pas
changer. C'est la femme elle-même qui vous demande de faire
cette... Elle n'a pas le choix.
De faire cette démarche-là.
Exact. Si on n'a pas cette autorisation, si on ne convainc pas que ça ne va pas changer cette femme, on ne va pas lui donner l'autorisation.
Et là, mais pourquoi elle-même, elle n'en avait pas parlé avec son mari ou son... Voilà.
Il faudrait d'autres acteurs pour convaincre. En fait, même si elle en parle, le compagnon a peur. Et ça, c'est vraiment des maris, des femmes entrepreneurs qui le disent. J'avais peur que ma femme devienne difficile à gérer. J'avais peur. Vous vous rendez compte que c'est vraiment... C'est très compliqué pour des femmes de se dire que je voudrais lancer une activité commerciale ou entrepreneuriale, mais on est en train de rattacher à mon identité féminine à cette question, n'est-ce pas? C'est très compliqué pour certaines femmes à gérer. Alors, très compliqué pour certaines femmes à gérer.
Mmh. Donc, vous avez terminé déjà cette étude ou c'est en cours sur les stéréotypes?
C'est en cours. Il y a effectivement... Parmi les membres de l'Observatoire, il y a d'ailleurs la présidente, la coordonnatrice du comité, qui est la professeure Allegra, qui d'ailleurs mène une thèse sur la question qui est plus détaillée sur ce sujet. Et donc, je recommande vraiment aux auditeurs de se rapprocher de nous. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux possibles et nous réagissons par mail aussi pour vraiment accéder à cette thèse, mais voir aussi les autres travaux qui ont été menés sur le sujet. Parce que sans s'en rendre compte, on peut être un acteur qui crée ces stéréotypes en pensant soutenir les femmes, et en fait, on les freine.
4 femmes sur 10, c'est quand même beaucoup.
4 femmes sur 10 sur l'échantillon, quand même l'échantillon, il faut que se disent les femmes avec lesquelles nous avons travaillé, à l'heure actuelle, c'est un échantillon de 70 femmes entrepreneurs, donc c'est-à-dire que les recherches continuent, mais quand même, c'est quand même un nombre important, n'est-ce pas?
À part les stéréotypes, quels sont les autres sujets de recherche?
Le financement.
Le financement.
C'est un fait. Les femmes entrepreneurs ont beaucoup de mal, certaines femmes entrepreneurs ont beaucoup de mal à accéder au financement, à même titre que les homologues masculins. Il y a le sentiment du peu de sérieux, ou encore c'est une femme, il faudrait qu'elle puisse être... Donc il y a beaucoup d'éléments autour de ça.
Nous et pourtant on dit souvent spéculer que les femmes sont beaucoup plus sérieuses, elles gèrent bien les finances.
Sauf quand ça devient des millions. On a l'impression que c'est bon quand c'est à la maison, mais quand il faudrait laisser des milliers, des millions...
Ah non, là, on n'a plus confiance.
Et surtout, lorsqu'il y a des compétiteurs masculins, on se dit, mais c'est une femme, c'est... Vous voyez. Donc, tout ça, c'est quand même des approches... Et ce qui est important à comprendre à ce sujet, c'est que c'est la réalité du terrain. Et que des études ont démontré que les femmes gèrent effectivement très bien en question de management, de leadership et de tout ce qui va avec. Donc à un moment, si nous voulons que l'écosystème entrepreneurial congolais crée plus d'emplois, progresse, il faudra faire confiance aux femmes. Et chacun va devoir revoir vraiment toutes les constructions sociales, mentales, même inconscientes que nous avons, les briser pour pouvoir laisser les femmes progresser.
Et c'est pas facile de les déconstruire parce que c'est tellement ancré dans les us et les coutumes, les mentalités. Ça va prendre du temps.
Oui, ce qui est intéressant à l'heure actuelle et même dans le cadre des différents projets pour elle et même dans ce cas-ci, c'est qu'il y a des activités beaucoup plus innovantes qui sont menées pour s'assurer que de plus en plus d'acteurs le comprennent. Et même le format d'événements, l'Observatoire organise aussi des événements, comme je le disais. Jusque-là, il y a eu des événements avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, la table ronde en avril, un cercle d'échange entre femmes entrepreneurs, mais bientôt d'autres événements qui réunissent aussi les familles de ces femmes.
À part la table ronde organisée par le gouvernement, il y a eu aussi une autre table ronde.
Il y a eu une table ronde organisée par l'Observatoire pour elle, pour effectivement réunir tous les acteurs de l'écosystème ensemble et voir et répondre à cette question.
C'est en avril de cette année.
En avril de cette année. Okay. C'est vraiment comment d'ici 2030, 2050, nous faisons en sorte que la femme entrepreneure congolaise soit libre d'entreprendre, mais ait le soutien nécessaire pour y parvenir. Et donc, les prochains événements vont permettre de réunir la famille aussi. On s'est rendu compte que pour avoir plus de résultats, c'est pas la femme elle-même seulement qui doit être sensibilisée. C'est vraiment tous les proches, c'est le mari, c'est l'entourage, les enfants, l'entourage. Et c'est pour ça qu'on est là. Mmh. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour que tout le monde se rende compte que c'est une question économique. Les femmes, elles sont nombreuses en RDC. Donc, plus de femmes entrepreneurs, plus d'argent il y a, littéralement. Donc, c'est une question réelle. Voilà.
Bien. Et quels étaient, les résultats, les conclusions de cette table ronde? Elle a porté sur quoi? C'était sur le financement seulement ou ça a touché plusieurs aspects, voilà.
La table ronde a touché plusieurs aspects. Les aspects principaux étaient l'accompagnement et l'éducation. Déjà, voir vraiment au niveau éducation. Et quand on parle du niveau éducation, on ne parle pas que d'incubation, mais vraiment l'école, l'université. Et par exemple, sur ce volet, on s'est rendu compte que la question entrepreneuriale sur le plan éducatif, avant même d'atteindre la femme, c'est une question générale. C'est-à-dire que on le sait, mais le système éducatif actuel n'a pas encore totalement incorporé le sens de l'entrepreneuriat, cette transmission. Ça, c'est déjà au niveau de tout le monde. Mais en ce qui concerne spécifiquement les femmes, c'est encore grave parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs organisations qui se battent pour accompagner les femmes en milieu universitaire, les protéger des harcèlements sexuels, des points sexuellement transmissibles et tout ce qui va avec. Et imaginez une femme entrepreneur dans un tel environnement, c'est un double défi. Ça, c'est simplement, et bien sûr, les outils utilisés devraient avoir à être modernisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que durant cette table ronde, puisque tous les acteurs étaient réunis, il y a quand même eu de très bonnes conclusions. Parce qu'il y a eu cet échange entre les professeurs qui mettent en place déjà des programmes d'entrepreneuriat très innovants. On a découvert ça à ce moment-là, qu'il y a des universités qui sont quand même en avance sur le sujet, qui ont créé des clubs, qui ont créé des programmes, qui ont créé des systèmes d'accompagnement d'entrepreneurs. Et de l'autre côté, les incubateurs qui ont des outils modernes adaptés pour accompagner les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs aussi en général. Et donc, durant cette table ronde, il y a eu cette rencontre, cet échange et même des décisions de collaboration entre certaines universités et d'autres incubateurs. Et là, ce n'est que pour toucher le volet éducatif, n'est-ce pas? Il y avait bien sûr d'autres volets qui étaient touchés, les aspects genre, les aspects plaidoyers auprès des politiques publiques et d'autres aspects.
Bien, nous parlons du rôle d'un observatoire des recherches sur l'entrepreneuriat féminin. Appelez-nous pour participer au 086 341 28 71. Nous avons déjà en ligne un auditeur, Emina Mwanda, depuis Kalemi. Bonjour.
Bonjour à notre ambassadeur de la paix, bonjour à l'invité, ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne, particulièrement Esther Mambout.
Bien, quelles sont vos préoccupations?
Oui, moi, j'encourage d'abord la pertinence du sujet, sachant que l'entrepreneuriat féminin constitue aujourd'hui un levier important de développement économique et de résilience des ménages en République démocratique du Congo. Malgré leur dynamisme, de nombreuses femmes entrepreneurs restent confrontées à des obstacles qui limitent la croissance et la pérennisation de leur activité. Je vais poser quelques questions à l'invité.
Oui.
La première question est celle de savoir, en RDC, quelles sont d'abord les priorités pour aider la femme à entreprendre librement? Parce que nous savons que les communautés, certaines communautés, limitent l'entrepreneuriat des femmes. Maintenant, quelles sont vraiment des pistes de solutions pour aider la femme à entreprendre, parce que on sait très bien qu'une fois que la femme entreprenne, le pays peut se développer facilement. La deuxième question est celle de savoir comment éviter que le résultat des recherches reste simplement dans des rapports sans produire des changements concrets sur le terrain. Hein? Parce qu'on sait très bien que on peut mener des recherches ainsi de suite, mais comment matérialiser maintenant les résultats de ces recherches-là? Pour terminer, la dernière question, l'observatoire plutôt, peut-il contribuer à renforcer la visibilité des entreprises dirigées par des femmes et à faciliter leur accès au marché et au réseau professionnel?
Bien, merci beaucoup, Madame Goretti. À vous la parole.
Oui, donc pour la première question, si j'ai bien compris, c'est quelles sont les priorités, n'est-ce pas, les priorités en RDC pour vraiment soutenir les femmes entrepreneurs. Il faut bien comprendre ceci, cher auditeur, c'est que les réalités des femmes entrepreneurs en RDC ne sont pas nécessairement les mêmes, puisque là on parle de la RDC, c'est quand même grand, ne sont pas nécessairement les mêmes dans différents contextes. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a effectivement des catégories. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains. Et attention, des femmes étudiantes entrepreneurs, ce n'est pas la même réalité qu'une femme mariée entrepreneur, une femme employée entrepreneur. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose, c'est très important de le comprendre. D'un côté, les femmes entrepreneurs peuvent être catégorisées en plusieurs catégories. Et donc, le soutien doit être adapté à chaque catégorie. De l'autre côté, même en termes de priorité de soutien, il y a différents acteurs qui ont des apports à différents niveaux. Le gouvernement, les politiques publiques qui doivent mettre en place l'écosystème, c'est-à-dire régulariser par des lois, par des principes, par des lois, par des ordonnances et tout ce qui va avec. Et il y a des incubateurs qui mettent en place les programmes d'accompagnement, de soutien. Et maintenant, pour ne pas parler de ces personnes qui connaissent déjà bien leur rôle, je pense qu'il faudrait surtout qu'on revienne sur nous, la population, tout simplement. Je crois que ça serait même plus facile aujourd'hui de dire qu'est-ce que nous, chacun, dans notre quotidien, on peut faire pour vraiment soutenir les femmes entrepreneurs. Et ça, je parle vraiment en tant qu'experte en accompagnement depuis plus de 3 ans, 4 ans aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose de simple que vous pouvez faire. C'est dire à ces femmes que c'est OK, ce n'est pas un problème d'entreprendre et que vous les encouragez. Oui, c'est simplissime. Ça a même l'air de... Non, Madame Goretti, vous voulez vraiment dire que ça fonctionne? Oui, rendez-vous compte qu'à chaque fois qu'on a dû faire des appels à projets pour femmes entrepreneurs, on a dû faire des vidéos de motivation à part rien que pour avoir un quota d'un minimum de 40% des femmes entrepreneurs. Maintenant, quand on...
Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas tellement motivées.
Elles veulent, mais elles vous disent clairement, j'ai peur. On ne me soutient pas, on me dit que ce n'est pas la bonne chose, on me dit que si je deviens entrepreneur, je ne pourrai pas me marier correctement. J'ai peur qu'en tant qu'entrepreneur, je ne sache pas m'occuper de mon travail, de mon mari, de ma maison.
De mes enfants.
De mes enfants, j'ai peur. Vous voyez, ça, c'est pas... C'est, même s'il y a... Et parce qu'aujourd'hui, il y a la Startup Act, il y a des programmes vraiment comme le projet pour elles qui sont là. Mais on a encore la difficulté de simplement convaincre les femmes d'accéder à des outils qui existent déjà pour leur accompagnement. Rendez-vous compte qu'on en est là. Donc, c'est-à-dire que vraiment, s'il y a une chose simple qu'on pourrait faire en tant que population, c'est qu'à chaque fois qu'on détecte une femme qui a un projet, qui a une idée, faisons en sorte qu'elle s'approche des incubateurs, des structures d'accompagnement, surtout qu'il y a de nombreux programmes d'accompagnement qui sont gratuits, surtout pour les femmes. Donc, ça, c'est vraiment la chose... simplissime qu'on pourrait faire, sans compter bien sûr ce que les incubateurs, les différents autres acteurs, les instituts bancaires peuvent faire. Maintenant pour la deuxième question.
Bien, il a parlé les résultats des recherches, comment les matérialiser? Est-ce que ça ne va pas être gardé dans des tiroirs et après plus rien? Comment est-ce qu'on peut valoriser ces résultats?
C'est là même l'avantage de cet observatoire. Nous disions, premier niveau, c'est récolte de données, traitement de manière scientifique. Mais deuxième niveau, c'est connexion avec les acteurs de l'écosystème. L'observatoire a pris la responsabilité de rencontrer les acteurs de l'écosystème et de présenter les données. Donc vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas seulement que nous les récoltons, nous les traitons, mais aussi nous les diffusons. et nous disponibilisons ça aux acteurs qui font du plaidoyer, aux incubateurs, aux universités, aux parties prenantes, tant politiques ou autres. C'est-à-dire, nous les disponibilisons pour encourager à l'action. Mais pas que. Les différents événements organisés ont pour mission, effectivement, de pousser les femmes entrepreneurs, grâce à ces données, de se positionner. Et l'objectif du récent cercle d'échange, par exemple, organisé avec les femmes entrepreneurs, avec 18 femmes entrepreneurs en juin dernier, a permis, effectivement, à de nombreuses femmes entrepreneurs de se repositionner pour avoir accès à certaines opportunités et croître dans leur business. Donc, l'observatoire n'est pas que théorique. Il y a clairement des actions pratiques qui sont mises en place. Et d'ailleurs, pour tous les auditeurs qui voudraient simplement rester informés ou aussi avoir des pistes d'action à mener, ils peuvent nous suivre et même nous contacter. C'est avec grande joie qu'on va leur partager données et informations.
Bien, nous parlons aujourd'hui du rôle d'un observatoire de recherche sur l'entrepreneuriat féminin. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez les 086-341-28-71.
Et peut-être pour finir, la troisième question.
Oui, on va y revenir dans quelques instants. Je rappelais aux auditeurs qui peuvent nous appeler au 086-341-28-71 pour participer à l'émission.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Quel est le rôle d'un observatoire des recherches sur l'entrepreneuriat féminin et quelle est sa valeur ajoutée pour les femmes entrepreneurs de l'écosystème? Appelez-nous à ce numéro 086-341-2871 pour intervenir en direct. La troisième question de M. Eminent, c'est par rapport à la visibilité. Comment l'observatoire compte assurer la visibilité des femmes entrepreneurs?
En tout cas, merci monsieur pour ces questions qui sont ultra pertinentes. Eh bien, aujourd'hui, sur les chaînes YouTube de l'Observatoire, vous allez avoir accès à des podcasts où des femmes entrepreneurs congolaises ayant un parcours clair sont publiées. Mais des portraits de femmes entrepreneurs sont aussi publiés sur les pages de l'Observatoire. C'est effectivement dans cet objectif de les booster, de vraiment assurer leur visibilité. Mais on ne fait pas que ça. Durant nos différents événements, quand on fait venir les différentes parties prenantes, les femmes entrepreneurs sont présentes et on les connecte à d'autres acteurs qui peuvent effectivement leur apporter des opportunités.
Mais est-ce qu'il y a déjà des données disponibles, des recherches, les recherches qui ont été déjà réalisées et les données sont déjà sur la place publique?
Effectivement, comme je le disais, par exemple, la professeure Allegra, qui est en train de, qui a fini sa thèse sur le sujet, et donc c'est simple, pour avoir accès à ça, nous faire un mail ou nous contacter sur tous les réseaux sociaux, on vous les partage, mais effectivement, il y a d'autres données que nous partageons déjà sur nos différentes pages, des recherches qui ont déjà été menées sur le sujet.
Là, c'est sur les stéréotypes seulement?
Pas seulement, mais les questions de financement de femmes entrepreneurs, les questions d'accompagnement des femmes entrepreneurs, des méthodes même. Tous ces éléments peuvent être disponibles à quiconque les veut et même sur nos différentes pages.
Bien, on va accueillir notre deuxième invité dans cette émission qui s'intéresse à l'Observatoire des recherches sur l'entrepreneuriat féminin, l'Observatoire pour elle. On va accueillir à présent Madame Joséphine Mantama. Elle est professionnelle en accompagnement d'entrepreneurs à Ovation. Madame Mantama, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission. D'abord, c'est quoi Ovation?
Ovation, c'est une structure d'accompagnement. Nous définissons comme un constructeur d'écosystèmes parce que notre rôle est d'accompagner l'écosystème entrepreneurial dans tel pays ou dans telle ville, par exemple, pour que ça grandisse, mais aussi, bien sûr, en même temps, au cœur de l'écosystème entrepreneurial, il y a des entrepreneurs. Et nous faisons donc de l'accompagnement des entrepreneurs dans des programmes d'incubation, d'accélération. Et voilà, c'est un peu ce que nous faisons.
Et aujourd'hui, combien d'entrepreneurs sont incubés chez vous?
En ce moment-ci, c'est difficile à dire parce que nous avons des programmes dans plusieurs pays et dans plusieurs villes différentes. Donc, je ne sais pas vous donner un nombre exact, mais pour ce qui est du Congo, je vais dire environ en incubation, je vais dire une centaine. Oui, mais après, on a aussi des programmes d'accélération. Donc, en incubation, on a à peu près 120, quelque chose comme ça. En accélération aussi, à peu près 180, oui, dans 4 villes différentes.
Bien, parlez-nous de votre observatoire. À quoi ça sert un observatoire de l'entrepreneuriat féminin?
Un observatoire, ça va servir, on va dire, comme d'une grande plateforme, comme une vitrine aussi, où tout le monde, mais principalement les entrepreneurs, peuvent se ressourcer. Nous avons bien vu qu'en RDC, on n'a pas toujours vu la femme comme l'entrepreneur modèle. Et pourtant, dans cet écosystème, il y a beaucoup de femmes qui tiennent l'entrepreneuriat, qui font en sorte que ça fonctionne, en tout cas un grand pourcentage soutenu par les femmes. Mmh. Et que nous pensons très fortement que la jeune fille congolaise, la femme congolaise, elle a besoin d'avoir un modèle congolais, parce que les femmes sont là, elles sont capables, elles réalisent des activités qui ont beaucoup de sens, qui sont croissantes, elles sont surtout inspirantes et résilientes. Parce que dans chaque, on va dire que dans chaque ville, dans chaque contexte, les conditions ne sont pas toujours les plus favorables, déjà pour l'entrepreneuriat de façon générale, mais encore moins pour la femme. Pour la femme, par exemple, la femme qui est mère des familles, la jeune fille, il y a toujours beaucoup de stéréotypes, beaucoup de barrières, beaucoup de challenges, et qui vont donc devoir se ressourcer, ils vont trouver des documents, des données. Ils peuvent aller se ressourcer, mais aussi vraiment cet espace où ils peuvent partager, parler librement, faire grandir les autres, qu'on grandisse ensemble dans cet écosystème.
Bien, il y a un auditeur, un internaute qui nous a écrit, je vais lire sa réaction. Il nous dit ceci, il y a certaines femmes, dès qu'elles deviennent indépendantes financièrement, elles deviennent insaisissables et épousent un caractère masculin, c'est-à-dire elles se font rivales directes des hommes, même dans leur foyer, en imposant un caractère des défis et se permettent tout. Et si elles sont mariées, c'est soit les divorces, car devenues insupportables, soit inépousables si elles sont encore non mariées. De l'autre côté, nous avons des femmes dites sages, c'est-à-dire même devant des millions de dollars américains, elles restent effacées, pas dans le sens de l'inexistence, mais effacées pour dire humbles, simples, et ne rejettent pas l'autorité de leurs hommes. Si elles sont déjà mariées, elles restent femmes au foyer. Si elles sont encore célibataires, elles restent épousables. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Jeannot Louembwe de Kolwezi?
Alors, Monsieur Jeannot, j'ai envie de dire d'abord, Monsieur Jeannot, calmez-vous, vous n'êtes pas en guerre avec les femmes. La réussite de la femme ou son développement, son épanouissement n'est pas une guerre contre celle des hommes, voilà. On pense tout le temps que la femme doit prouver, elle doit s'expliquer, et que surtout, on va tout de suite là toujours remettre la femme à la soumission d'un homme, n'est-ce pas, notre système très patriarcal, et on essaye vraiment d'éviter ça. La femme est un être complètement entière, qui a ses propres objectifs, ses propres ambitions, elle est capable, elle est forte, et c'est tout ce que nous encourageons aujourd'hui, démontrer que les femmes n'ont plus, on n'est plus à l'ère où il fallait, par exemple, avoir un homme, un mariage pour te définir. Les femmes ont des rêves, des ambitions, et qu'elles doivent accomplir. Et effectivement, le fait d'être capable de gagner leur propre argent, ça permet à celles qu'elles grandissent, qu'elles soient autonomes. On ne dit pas que c'est un problème, au fait. Mais aussi, il faut savoir que c'est grâce aux femmes, il faut que ce genre des collègues ils doivent comprendre ce qu'est la femme. C'est elle, comme on dit tout le temps, c'est la femme qui est un peu le berceau de l'humanité. Il n'y a pas des hommes sans les femmes. J'ai toujours dit que j'ai jamais compris comment on est arrivé à complexer la femme. Parce qu'avec toute la force qu'elle a, avec tous les challenges qu'elle a du quotidien, on pense toujours qu'il faut qu'elle se justifie, qu'elle se soumette à quelqu'un, et que non, on n'a pas besoin de permission. Les femmes, c'est les moments où elles doivent briller très haut, très fort. Sans excuses, sans ambition, j'ai des rêves, je veux devenir atteindre mes rêves aussi grands qu'ils puissent paraître, et sans avoir peur des jugements, n'est-ce pas, et de me dire qu'il faut qu'il y ait qu'un homme qui m'autorise. Je pense que même la loi congolaise a enlevé
cette
barrière là d'autorisation.
Mais malgré ça, dans la pratique.
Dans la pratique, effectivement, mais on essaie aussi de leur montrer que ce n'est pas le cas, parce que parfois ce sont juste, vous voyez, des jugements. Dans le concret, une femme qui réussit, ça ne devient pas orgueilleux forcément, tout au contraire, elle est plus épanouie, et c'est un modèle, elle participe, elle contribue au développement de la société. Et aujourd'hui, il est hors de question qu'on continue à développer la société sans la femme, et surtout l'entrepreneuriat. C'est ça le modèle que nous voulons montrer aussi à nos enfants, n'est-ce pas? J'aime beaucoup la définition que mon père a de la femme de façon générale. Il dit que la femme n'est ni un être inférieur, ni un être supérieur à l'homme. C'est un être différent de l'homme, complètement différente, complètement complète, qui n'a besoin de rien de personne pour grandir, pour se développer, mais qui c'est dans nos différences, avec nos forces les uns les autres, que nous grandissons ensemble, comme les Yforchi de ONU, par exemple, n'est-ce pas? Oui.
Bien.
Nous avec les hommes.
Nous avec les hommes. Madame Goretti, Monsieur Luembo dit que dès que la femme commence à gérer beaucoup d'argent, elle devient insaisissable.
Monsieur Luembo, c'est des maris qui pensent comme ça qu'on a dû gérer pendant plusieurs années. donc ça, c'est quelque chose quand même de réel. Et ça, c'est qu'un cas, en fait. Et c'est très intéressant qu'on ait un commentaire comme ça, parce que on en parlait tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
S'il n'y avait pas un commentaire comme ça, on se serait dit non, ce qu'elle dit, c'est elle qui l'invente. On ne l'invente pas. Donc on a des femmes qui se retrouvent dans ce genre de posture. Dans des foyers qui n'arrivent même pas à payer un loyer, la femme propose de commencer à entreprendre et on lui sort ce genre de phrase.
Oui.
Alors que la plupart du temps, c'est juste une personne avec une idée. Il faut vraiment que nous fassions la différence entre les activités qu'on mène, ce qu'on fait et qui l'on est. N'est-ce pas? Les femmes ont un trait de caractère, les hommes aussi. Donc si vous vivez avec un homme ou une femme qui a déjà des traits de caractère compliqués à vivre, c'est son trait de caractère. Mais cela ne signifie pas que dans son comportement, dans les actions qu'il mène, son trait de caractère nécessairement va avoir de l'impact. Ça, c'est la première chose à comprendre. Une autre chose à comprendre, c'est que la gent masculine congolaise, on a tous grandi avec une forme d'éducation, et l'éducation que nous avons reçue, nous les femmes, était effectivement mariage et tout ce qui va avec, mais la jante masculine congolaise se retrouve dans l'insécurité, parce qu'on a aussi appris aux hommes, par exemple congolais, que la définition de la masculinité, c'est de rapporter de l'argent.
Et que si une femme commence à rapporter ou à gagner plus que vous, elle devient une menace.
Et donc en fait, c'est que beaucoup d'hommes ont trouvé leur définition, le fait même d'être appelé homme, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Attention. Même un enfant de 17 ans, aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a des entrepreneurs de 17 ans qui gagnent des millions de dollars. Est-ce que cet adolescent est plus homme qu'un homme qui gagne moins? Si, chers hommes, chers papas, chers, vous trouvez votre définition dans le fait de rapporter de l'argent, à chaque fois qu'une femme, que ce soit votre fille, votre épouse, ramènera plus d'argent que vous, vous aurez l'impression qu'elle devient plus homme que vous. Le problème n'est pas la femme qui est entrepreneur, le problème c'est l'homme qui est en face de cette femme entrepreneur. Est-ce que vous n'avez pas des insécurités en vous que vous devez régler? Et maintenant, à cause des insécurités d'un grand nombre de la gent masculine,
ça freine maintenant l'entrepreneuriat féminin.
Et ça freine l'économie nationale, ça c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est beaucoup plus que votre femme. Non, ça, il y a un effet domino. Quand votre femme a créé de l'emploi, il y a une personne qui a quitté le chômage, il y a une personne qui peut aussi nourrir sa famille, et cette personne qui nourrit sa famille a peut-être un personnel à domicile qu'il paye. En fait, il y a un effet domino à chaque femme qui entreprend. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Permettre à une femme d'entreprendre, c'est contribuer de manière concrète à l'évolution économique de ce pays. C'est un fait. Donc à chaque fois que vous voyez votre sœur, votre cousine, ne vous dites pas que c'est juste ma sœur. Non, c'est une réelle pièce d'un puzzle plus énorme. Et si vous bloquez cette femme pour des raisons, permettez-moi le terme égoïste, ou à cause des insécurités qui ne sont pas encore réglées, vous bloquez une nation. C'est un fait.
Bien. On va accueillir un auditeur, M. Robert Adjokou, qui nous appelle depuis Bounia, en Ituri. M. Adjokou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Radio Capi. C'est fantastique. Hommage à l'invité, hommage aux bailleurs de fonds. Un sujet très, très important. Je ne vous apprends rien en disant que généralement, les femmes sont des évangélistes. Elles sont modèles exemplaires. Merci d'avoir ciblé les mamans pour financer leurs activités. Une question de curiosité, pour les mamans qui sont au village, qui suivent rarement la radio au Capi surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer toutes ces belles informations et aussi par rapport aux priorités. Quelles sont les activités visées par cette organisation pour assister les mamans? Vraiment, je suis très très content. Je profite pour saluer les mamans de Kinshasa. Quand vous parlez par exemple de Sangoya Wenze, en tout cas les mamans nous apprennent beaucoup de choses. Madame l'invitée, soyez bénie. Généralement, les femmes sont prises de grandes valeurs morales, spirituelles et intellectuelles. Ceux qui doutent des femmes, le secret, c'est seulement les quatre règles d'or. Quand vous êtes fidèle, vous respectez la femme, vous la considérez et vous l'aimez, logiquement, la femme est respectueuse. D'ailleurs, s'il y a des vices, si vous voulez, de mauvais comportements signalés dans notre pays, c'est généralement, ce sont les hommes. Et la rébellion, l'infidélité et autres choses, ce sont les hommes. Toujours vraiment les hommes. Mamans, félicitations. Je crois que le développement va venir plus du côté des mamans.
Merci.
Je suis très content de cette émission.
Merci Monsieur Adjoku Robert. Madame Joséphine, votre réaction?
Alors, je remercie beaucoup, merci Monsieur Robert, merci pour tous les compliments. Merci d'être cet homme qui met de la lumière sur les femmes, ça on admire beaucoup. J'ai envie de dire plus de Monsieur Robert dans ces pays, n'est-ce pas?
Oui.
Effectivement, cette femme qui est porteur des valeurs, mais c'est qu'il a dit, la question qu'il a posée, je pense qu'on va trouver un moyen de faire une large diffusion.
Diffusion, exactement. Des données collectées.
Accès, collectées et travailler en partenariat avec les autres structures qui sont déjà installées dans ce genre de coins un peu plus reculés.
Est-ce que vous avez des représentations dans les autres provinces qui vous aident à collecter les données?
Alors, représentations, pas forcément. Par contre, nous travaillons toujours avec des structures locales qui sont déjà là, qui sont implantés, qui connaissent leur environnement, l'écosystème de telles villes, par exemple, de telles régions, de tels villages. Mais aussi, il faut dire que nous avons surtout aussi des programmes de centre terrain où nous allons aller vers ces mamans. Nous avons d'ailleurs fait, peut-être dans un autre projet, mais toujours dans les mêmes cadres, bien sûr, dans les mêmes objectifs, un dernier programme à Chicapa, où nous sommes arrivés effectivement voir ces mamans qui sont au marché et qui ne parlent pas nécessairement français.
C'était quand vous étiez là? C'était
en juin
de cette année.
Oui.
Ok.
On a dû donc effectivement on a
collecté des données sur quelles questions, sur quelles
sur l'entrepreneuriat pour savoir quelles sont les réalités, quels sont leurs challenges.
Même formés en fait, on les a formés
exactement, accompagnés. Comment est-ce qu'elles peuvent se développer? Quels sont leurs soucis? Leur donner accès à l'information, leur partager les nouveaux outils, n'est-ce pas, les nouvelles informations. Et aussi, elles ont aussi la responsabilité, n'est-ce pas, d'aller faire la même chose parce qu'à la fin du programme, ils se sont constitués en AVEC. Mais au-delà de ça, ils ont d'autres structures sur lesquelles, dans lesquelles elles exercent.
Et combien les femmes de Chicapa ont été touchées ont été interviewées?
Jusqu'ici, interviewées, nous avons eu dans le programme une vingtaine de femmes accompagnées, oui, mais qui sont aussi tout autant des représentantes d'autres structures. Et que donc nous allons plus multiplier ces genres d'activités pour toucher le maximum des femmes et passer effectivement à travers d'autres radios et peut-être aussi les réseaux sociaux aujourd'hui, comme on le sait. Et voilà.
Et quelles étaient les conclusions de cette enquête à Chicapa?
Alors, j'ai envie de dire que nous étions très sincèrement d'abord, il y a eu un côté positif et négatif. Alors, le positif, c'est de voir comment est-ce que parfois on ne se rend pas déjà compte que la RDC, c'est très grand, on ne se rend pas compte quand on arrive, on voit qu'il y a un écosystème qui existe et de voir qu'il y a toujours autant de femmes qui se battent au quotidien pour faire grandir leurs activités, mais aussi de voir la résilience derrière, parce qu'il faut dire qu'on doit reconnaître qu'à Kinshasa, on a beaucoup de privilèges ici. Elles n'ont pas les mêmes accès aux ressources. Nous sommes allés dans plusieurs autres villages où ils n'ont pas d'électricité forcément. Oui, ils n'ont pas beaucoup d'accès des formations, n'est-ce pas, de l'accompagnement.
Mais est-ce que les femmes commerçantes qui vendent au marché sont aussi entrepreneurs? Est-ce que ce sont des entrepreneurs?
Il y a deux catégories. Mais nous, on aime bien quand même les mettre dans un ensemble des entrepreneurs parce que au bout d'un moment, parfois, entreprendre, c'est se réveiller, c'est avoir du PEP, c'est dire, voilà, il y a un problème à tel endroit, ici, il manque des tomates, je commence à disponibiliser les tomates sur mon avenue, n'est-ce pas? Un entrepreneur, c'est pas que c'est lui qui est à la Silicon Valley, qui invente, je sais pas moi, les nouveaux, une gadget de je ne sais quoi, mais c'est vraiment chaque personne, peu importe comment il est petit, qui a eu cette envie le matin de voir il y a un besoin, il y a un problème quelque part, je vais apporter une solution. Effectivement, maintenant, les problèmes, parfois les challenges, l'électricité, Internet, les accès, les routes, les transports, la mobilité de façon générale, et qu'il y a d'autres femmes qui doivent, n'est-ce pas, se compromettre d'une certaine façon leurs valeurs pour avoir accès à certaines choses, aux accès au marché. Mais on va vraiment, on essaie de leur apporter des programmes qui leur rendent plus indépendantes, n'est-ce pas? Qui les mettent en confiance et quand elles ont la connaissance, elles savent qu'elles peuvent aller plus loin, qu'elles peuvent rêver plus grand. Et voilà. Mmh.
Madame Goretti?
Oui, nous avons ensemble travaillé dans le cadre avec Ovation, effectivement, sur ce projet. Ce n'était pas qu'une des interviews, c'était un vrai programme où on a accompagné des femmes qui parlent en Tchilouba, qui ont appris, par exemple, à pitcher face à un investisseur.
En Tchilouba.
OK. Et pour nous, c'était beaucoup d'émotions, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a eu ce temps d'accompagner. Et aujourd'hui, ces femmes villageoises, je précise, qui ont appris à fabriquer leur savon et tout, devant un investisseur, elles peuvent dire, voici le problème que j'ai résolu dans ma communauté, voici le modèle économique que j'exécute avec des termes Tchilouba effectivement, et voici si vous m'accompagnez, à quel niveau d'impact je vais emmener dans ma société. Et ça, avant, elles n'étaient pas en mesure d'accéder à ce genre d'opportunités parce qu'elles n'avaient pas les outils. Vous voyez, ça c'est ce genre de travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, pour les régions à l'intérieur du pays, comme ma collègue le disait, Joséphine, c'est qu'il y a des structures locales qui accompagnent déjà. C'est étonnant, mais c'est réel. Hein. Donc, un peu partout où nous allons en RDC, que ce soit à Bounia, à Mbujimayi, un peu partout où nous allons, nous nous rendons compte qu'il y a des structures locales et qui ont vraiment un très bon niveau de ressources. Ce que l'Observatoire peut faire à partir d'aujourd'hui, et merci beaucoup aux auditeurs de poser ces questions, c'est de lister pour les provinces où ces structures existent, quelles sont les structures qui existent, comment entrer en contact avec elles. Donc nous pouvons déjà voir comment d'ici les prochains jours disponibiliser ça à tout le public. Comme ça, les femmes qui sont en province peuvent avoir accès à ces structures et voir dans quelle mesure ces structures peuvent les soutenir et les accompagner.
Bien. Mais nous savons que le projet pour elle, par exemple, accompagne les femmes qui sont à Kinshasa, Bukavu et je pense à Kikwit. Est-ce que vous êtes déjà descendu dans toutes ces villes, à Bukavu par exemple, à Kikwit, pour collecter les données?
À Kikwit, nous y avons aussi été. Nous avons aussi été à Kikwit.
À Kikwit, ok.
Oui, nous avons été à Bounia. Mais pas encore à Bukavu précisément, parce que vous savez que l'état sécuritaire, ce n'est pas très très évident à l'heure actuelle. Mais même sans être en présentiel dans ces lieux, grâce aux acteurs qui sont sur place, nous pouvons récolter les données. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut noter que l'Observatoire pour elle est un projet qui est exécuté, certes financé une initiative d'Expertise France en partenariat avec le gouvernement, mais qui est exécuté par Louvain Coopération en consortium avec Ovation. Et donc ces deux structures qui exécutent ce projet ont déjà quand même un grand réseau dans toute la RDC et même à l'étranger. Et donc ces deux institutions utilisent leur réseau dans le cadre de ce projet pour récolter les données et les ramener en fait à l'Observatoire. Donc même sans être là sur place, grâce à toute l'expérience, au projet déjà mené sur place et aux partenaires locaux avec lesquels on travaille, nous récoltons les données que nous pouvons disponibiliser à travers l'Observatoire.
Et ça vous prend combien de temps, la collecte des données jusqu'à la publication?
Tout le temps. ça nous prend tout le temps.
Okay.
Et ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas un travail qu'on fait aujourd'hui. Chaque année, il y a des changements. Parlons d'un aspect très important qui ne touche pas nécessairement la femme au village actuel pour l'instant, mais il y a les agents IA, par exemple, qui sont en train de bouleverser le secteur entrepreneurial. Ça, c'est des faits que nous devons tenir en compte. Pour les entrepreneurs dans l'écosystème de Kinshasa, par exemple, qui ont déjà accès à ça, nous devons prévoir ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des changements tout le temps. Il y a des ordonnances, là, on a vu, n'est-ce pas, les questions du numérique qui viennent d'être publiées. Il y a des plaidoyers sur la question. Mais vous voyez, il y a des changements tout le temps. Et donc, l'Observatoire ne peut pas se permettre de s'arrêter. C'est-à-dire, on est en continuel.
Vous continuez. Et vous êtes là pour observer tout ce qui s'est passé.
Observer, traiter, disponibiliser et diffuser.
Et diffuser les données.
Oui, oui.
Bien. Madame Joséphine, pour ceux qui veulent avoir accès à toutes ces données, comment procéder?
Alors là, je passerai plutôt la main à ma collègue Goretti, parce que c'est elle qui en lit, c'est elle qui partage ces données-là et elle donnera des meilleures orientations.
Eh bien, c'est simple, l'observatoire pour elle est sur LinkedIn, TikTok, hein, on est sur TikTok, rien que ça, hein, on insiste, on est sur TikTok.
TikTok, c'est plus pour les jeunes, hein, il semble que les jeunes sont plus là-bas.
Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs
sur TikTok. Qui sont aussi sur TikTok.
Énormément de femmes entrepreneurs sur TikTok. Donc, c'est vraiment un réseau social qui réunit beaucoup de femmes entrepreneurs. Donc, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, et même il y a une chaîne WhatsApp, donc, et une adresse email disponible. Il ne faut simplement pas hésiter à s'abonner pour rester informé. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations qui ne sont pas encore publiées, de nous faire un mail, on peut voir comment vous les disposez.
Et l'écosystème entrepreneurial peut se servir de ces données pour mener les plaidoyers
des autorités. En effet, c'est même l'un des objectifs principaux.
Bien, on va accueillir M. Louemboué qui avait posé sa question, mais il revient. Il a encore d'autres questions. Il nous appelle depuis la ville de Kolwezi. Monsieur Jeannot Louemboué, bonjour.
Bonjour, c'est jeudi, vous m'entendez?
Oui, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez?
Oui, je salue les invités. Merci de la parole accordée. Je sais que le temps passe. En fait, j'aimerais ici me faire comprendre que les dames se calment aussi sur le plateau. Je ne suis pas en train de décourager. J'encourage l'entrepreneuriat féminin et voilà, que les femmes aillent de l'avant financièrement, matériellement. Mais je pense que, comme l'a dit l'une des invitées, que nous devons aussi savoir que l'argent, puisque c'est un pouvoir, ça change de caractère. Ça change de caractère de l'être humain, que ce soit homme ou femme. Et partant de ces changements, peut-être inconscients, il y en a qui, si ils sont déjà dans un foyer, le partenaire ne supporte plus ces changements brusques du caractère dû aux moyens financiers et ça brise le couple. Je suis en train d'encourager que les femmes travaillent plus pour pouvoir trouver de l'argent et être autonomes dans la société. Hein, chère dame, ne soyez pas vraiment... je ne suis pas de ces hommes-là qui découragent les femmes. Et de l'autre côté, je pense que... Bon, c'est une question, vous comprenez ça comme une question. Ne trouvez-vous pas que l'entrepreneuriat est aussi un problème de dons ou du savoir-faire? Parce qu'il y en a qui, malgré des formations, ne s'en sortent pas. Et d'autres, avec ou sans formation, ils s'en sortent et ils s'envolent, ils s'en vont loin. Okay. Cela est dû à quoi? Bon, réfléchissons ensemble. Je sais que peut-être vous n'allez pas me donner toutes les réponses.
Oui. Merci
cela
beaucoup.
Cela peut être dû à quoi? C'est d'accord. Un peu ça, merci.
Madame Joséphine.
Merci beaucoup, monsieur, et merci encore alors de dire que vous soutenez l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup pour ça. Alors, je voudrais dire, c'est vraiment comme il l'a dit, hein. Après, si l'argent change quelqu'un, c'est seulement parce que cette personne est comme ça. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est femme ou quoi que ce soit.
Les femmes, oui. Même il y a des hommes aussi qui changent.
Exactement. Ouais. Et ça, ce n'est pas lié à son genre, n'est-ce pas? Mais après, effectivement, je pense que dans ces programmes, dans cette mission, nous avons aussi tout autant la mission d'éduquer les femmes, mais les hommes aussi, du coup, point de vue finance ou professionnel, n'est-ce pas, à partager les bonnes valeurs. Comme on les partagerait à n'importe quel niveau du développement d'un être humain, on va être axé aussi sur les échanges. C'est pour ça qu'elles sont, par exemple, dans des moments comme des cercles d'échange, elles ont l'expérience d'écouter les expériences d'autres femmes et qui gardent les pieds sur terre malgré leur réussite, malgré leur pouvoir, n'est-ce pas? C'est des gens accessibles, ils ne se prennent pas la tête ni avec leur partenaire. Marie,
on est déjà à la fin de l'émission, merci. Malheureusement. Malheureusement, Madame Goretti, on va conclure en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on retient?
On retient qu'il existe un observatoire qui nous donne des données et qui collecte des données sur l'entrepreneuriat féminin. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir accès à ça et soutenez toute femme entrepreneur autour de vous.
Comment vous suivre? Est-ce qu'il y a des adresses, les contacts, les mails, téléphones?
Oui, bien sûr. Observatoire pour elle sur tous les réseaux sociaux. C'est vraiment ça le nom. Observatoire pour elle, TikTok, LinkedIn, Facebook, mais aussi YouTube. Il suffit d'aller, de faire un DM ou un message ou un mail et on va vous répondre tout de suite.
Bien, Madame Goretti Kat, chargée de communication, chercheuse et membre du comité observatoire pour elle, merci. Nous disons également merci à Madame Joséphine Mantama, professionnelle en accompagnement d'entrepreneurs à Ovation. C'est Ovation ou Ovation?
Ovation en français, Ovation en anglais.
Ovation en anglais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Bien, restez branchés sur la fréquence de la paix. On va suivre les informations dans quelques instants. Et on se retrouve juste après. Il est 11h à Kinshasa.